Emmanuel Kant. La religion dans les limites de la raison. Deuxième partie. De la lutte du bon principe avec le mauvais pour la domination sur l'homme. Pour devenir un homme moralement bon, il ne suffit pas de se borner à laisser se développer sans obstacle le germe de bien inhérent à notre nature. Mais il est encore nécessaire de lutter contre une cause du mal à tendance contraire, que nous trouvons également en nous. C'est là ce que, parmi tous les moralistes de l'Antiquité, les stoïciens particulièrement, ont voulu nous faire connaître en adoptant pour mot de ralliement le terme de « vertu », qui signifie, en grec comme en latin, à la fois « courage » et « vaillance », et suppose par conséquent un ennemi. Ainsi compris, le terme de vertu est un nom magnifique, auquel ne peuvent nuire ni l'abus fanfaron, qu'on en a fait souvent, ni les moqueries dont on l'a criblé, comme récemment le terme lumière. Demander en effet qu'il montre du courage, c'est déjà pour moitié en inspirer à l'homme. Tandis que la paresseuse et pusillanime façon de penser, qui consiste à se défier entièrement de soi-même et à compter sur un secours étranger, en morale et en religion, énerve toutes les forces de l'âme et le rend indigne de ce secours. Mais ces hommes vaillants ne surent pas reconnaître leur ennemi, qu'on chercherait à tort dans les inclinations naturelles, simplement indisciplinées, et qui se montrent ouvertement comme elles sont, à la conscience de tous. Quand cet ennemi, au contraire, est pour ainsi dire invisible, attendu qu'il se cache derrière la raison, ce qui le rend d'autant plus redoutable. Ils appelèrent la sagesse contre la folie, seulement coupable de se laisser, faute de prévoyance, illusionner par les inclinations, au lieu de l'invoquer contre la méchanceté du cœur humain, dont les principes corrupteurs de l'âme ruinent l'intention de fond en comble. Note. Ces philosophes tiraient leur principe moral universel de la dignité de la nature humaine, de la liberté, en tant qu'indépendance de la tyrannie des inclinations. Ils ne pouvaient pas d'ailleurs se donner une plus belle ni plus noble base. Quant aux lois morales, ils les puisaient immédiatement dans la raison, seuls qualifiés, d'après leur théorie, pour faire œuvre législative et pour édicter dans ses lois des commandements absolus. Et ainsi, objectivement, pour ce qui regarde la règle, comme aussi subjectivement, pour ce qui a trait au mobile, à condition d'attribuer à l'homme une volonté exempte de corruption, qui lui fit adopter ses lois sans hésitation parmi ses maximes, tout était fort bien agencé. Mais c'est précisément dans cette dernière supposition qu'est la faute. En effet, nous pouvons, d'aussi bonne heure qu'on voudra, porter notre attention sur notre état moral. Nous trouverons toujours qu'il n'est plus res integra, mais que nous devons commencer par déposséder le mal de la place qu'il s'y est faite, et qu'il n'aurait pu prendre si nous ne l'avions pas adopté dans notre maxime. C'est-à-dire que le premier bien véritable que l'homme peut accomplir est de s'affranchir du mal, que l'on doit chercher non pas dans les inclinations, mais dans la maxime pervertie et, par conséquent, dans la liberté elle-même. Les inclinations ont pour seul effet de rendre plus difficile l'obéissance aux bonnes maximes contraires. Tandis que le mal véritable consiste à ne pas vouloir résister aux inclinations quand elles incitent à la transgression, et que cette intention, à proprement parler, est le véritable ennemi. Les inclinations, bonnes ou mauvaises, il importe, sont seulement les adversaires des principes en général. Et sous ce rapport, le point de départ que ces philosophes assignent à la moralité est avantageux si on le regarde comme un exercice préparatoire, comme une discipline des inclinations générales, tendant à plier le sujet à des principes. Mais comme on doit avoir affaire à des principes spécifiques du bien moral, et que ces principes, en tant que maximes, n'offrent pas un tel caractère, il faut leur supposer encore, dans le sujet, un autre adversaire auquel la vertu doit livrer bataille, sans quoi toutes les vertus seraient, je ne dis pas, comme ce père de l'Église, des vices brillants, mais du moins de brillantes misères. Parce que, arrivant souvent à dompter le tumulte, jamais elles ne réussissent à vaincre et à exterminer le séditieux lui-même. Fin de la note, retour au texte. Les inclinations naturelles, considérées en elles-mêmes, sont bonnes, c'est-à-dire non rejetables. Et non seulement il est vain, mais il serait encore nuisible et blâmable de vouloir les extirper. On doit plutôt se contenter de les dompter, pour qu'elles puissent, au lieu de s'entrechoquer elles-mêmes, être amenées à s'harmoniser dans un tout appelé bonheur. Et la raison à qui incombe cette tâche a reçu le nom de prudence. Il n'y a de mauvais en soi et d'absolument rejetable que ce qui est moralement opposé à la loi. Voilà ce qu'il faut extirper. Et la raison qui nous l'apprend, surtout quand elle met ses leçons en pratique, mérite seulement le nom de sagesse. Et par comparaison, on peut dire du vice qu'il est une folie. Mais seulement quand la raison se sent assez de force pour le mépriser, lui et tous ses attraits. Et non pas seulement pour le haïr comme un être redoutable et s'armer contre lui. Quand donc le stoïcien ne voyait dans le combat moral soutenu par l'homme que la lutte livrée par lui à ses inclinations, innocentes en soi, dont il faut qu'il se rende maître, parce qu'elles sont des obstacles à l'accomplissement de son devoir, n'admettant pas de principe mauvais en soi, particulier et positif, il ne pouvait placer la cause de la transgression que dans la négligence à combattre les inclinations. Mais comme cette négligence est elle-même un acte contraire au devoir, une transgression, et non pas simplement une faute de la nature, et que la cause ne peut pas en être cherchée à son tour, sans que l'on tourne dans un cercle, dans les inclinations, mais seulement dans ce qui détermine la volonté comme libre arbitre, dans le principe interne et premier des maximes, qui sont en bonne intelligence avec les inclinations. Il est aisé de concevoir comment les philosophes, guidés par un principe d'explication éternellement mêlé de ténèbres, et qui est tout indispensable qu'il est, n'en vient pas moins mal à propos, pouvaient méconnaître le véritable adversaire du bien en croyant lui livrer bataille. Note. C'est une hypothèse courante de la philosophie morale que l'existence du mal moral dans l'homme s'explique aisément, d'un côté, par la force des mobiles de la sensibilité et de l'autre, par la faiblesse du mobile de la raison, qui est le respect pour la loi, c'est-à-dire par défaillance. Mais alors, il faudrait que le bien moral inhérent à l'homme, dans sa disposition originaire, puisse s'expliquer plus aisément, car on ne peut pas concevoir que l'un soit compréhensible sans l'autre. Or, le pouvoir qu'a la raison de maîtriser, par la simple idée d'une loi, tous les mobiles qui agissent en sens contraire est absolument inexplicable. On ne peut donc pas concevoir comment les mobiles de la sensibilité peuvent se rendre maîtres d'une raison qui commande avec tant d'autorité. En effet, si tout le monde se conduisait conformément aux prescriptions de la loi, on dirait que tout se passe suivant l'ordre naturel, et personne n'aurait l'idée de chercher à savoir seulement quelle en est la cause. Fin de la note, retour au texte. Il ne faut donc pas s'étonner de voir un apôtre nous dire que cet ennemi invisible, que nous connaissons seulement par les effets qu'il a sur nous, par la corruption des principes, est un esprit mauvais, existant hors de nous. Ouverture de guillemets. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, les inclinations naturelles, mais contre des princes et des puissances, contre les mauvais esprits. Fermeture de guillemets. En employant ce terme, il ne semble pas avoir eu en vue d'étendre notre connaissance au-delà du monde sensible, mais seulement de rendre intuitif, pour l'usage pratique, le concept d'une chose insondable pour nous. En effet, pour ce qui regarde cet usage, placer le tentateur simplement en nous-mêmes, ou bien le placer hors de nous, cela ne change d'ailleurs rien pour nous, puisque dans le dernier cas, nous ne sommes pas moins coupables que dans le premier, car nous n'aurions pas été tentés par l'esprit mauvais si nous n'eussions pas été en intelligence secrète avec lui. Note. La morale chrétienne a pour caractère particulier de représenter le bien moral distinct du mal moral, non point comme le ciel est distinct de la terre, mais comme le ciel est distinct de l'enfer. Cette représentation, quoique figurée et comme telle révoltante, n'en est pas moins, dans le sens qu'elle a, philosophiquement juste, exacte. Elle empêche en effet de se représenter le bien et le mal, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres, comme étant voisins l'un de l'autre, et se confondant l'un dans l'autre par degrés successifs de plus ou moins grande clarté, et les fait concevoir comme séparés l'un de l'autre par un abîme incommensurable. Le caractère entièrement hétérogène des principes qui peuvent nous faire sujet de l'un ou de l'autre de ces deux royaumes, et aussi le danger lié à l'imagination d'une parenté proche entre les propriétés qui qualifient l'homme pour être sujet de l'un ou de l'autre, justifie ce mode de représentation qui, malgré ce qu'il a d'horrible, est cependant sublime. Fin de la note, retour au texte. Nous allons diviser en deux sections l'examen du sujet qui nous occupe. Première section, du droit du bon principe à la domination sur l'homme. Petit a. Idée personnifiée du bon principe. La seule chose qui puisse faire d'un monde l'objet du décret divin et la fin de la création, c'est l'humanité, l'essence rationnelle du monde en général, dans toute sa perfection morale, perfection à laquelle, comme à sa condition suprême, la félicité est liée comme conséquence immédiate dans la volonté du Très-Haut. Cet homme, le seul agréable à Dieu, ouverture de guillemets, est en Dieu de toute éternité, fermeture de guillemets. L'idée en émane de son être. Il n'est pas, à ce titre, une chose créée, mais le Fils unique de Dieu, ouverture de guillemets. Le Verbe par lequel ont été créées toutes choses et sans lequel rien de ce qui a été fait n'existerait. Fermeture de guillemets. Car c'est pour lui, c'est-à-dire pour l'essence rationnelle dans le monde, comme on peut le penser d'après sa destination morale, que toutes les choses ont été faites. Ouverture de guillemets. Il est le reflet de sa magnificence. Fermeture de guillemets. Ouverture de guillemets. En lui, Dieu a aimé le monde. Fermeture de guillemets. Et c'est en lui seulement, et par l'adoption de ses intentions, que nous pouvons avoir l'espoir, ouverture de guillemets, de devenir enfant de Dieu, fermeture de guillemets, etc. Nous élever vers cet idéal de la perfection morale, c'est-à-dire vers ce prototype de l'intention morale dans toute sa pureté, c'est notre devoir universel à nous autres hommes. Et même cette idée, qui nous est fournie comme un but à atteindre par la raison, peut nous donner la force nécessaire. Mais comme nous ne sommes pas les auteurs de cette idée et qu'elle a pris place dans l'homme sans que nous comprenions comment la nature humaine a pu être capable seulement de la recevoir, il est mieux de dire plutôt que l'idéal dont nous parlons est descendu du ciel jusqu'à nous et qu'il a revêtu l'humanité. Car il est moins possible de se représenter comment, mauvais de sa nature, l'homme réussit par lui-même à se dépouiller du mal et à s'élever jusqu'à l'idéal de la sainteté, que d'imaginer que cet idéal revêt l'humanité, qui n'est pas mauvaise par elle-même, et s'abaisse jusqu'à elle. Cette union avec nous peut être regardée comme un état d'abaissement du Fils de Dieu, si nous nous représentons que cet homme aux intentions divines, voulant nous servir de modèle, malgré sa sainteté parfaite, qui le fait échapper aux atteintes de la souffrance, accepte pourtant de souffrir les plus grandes misères dans l'intérêt du bien du monde. Tandis que l'homme, qui n'est jamais exempt de faute, même quand il a adopté cette même intention, peut toujours regarder comme méritées par lui les souffrances qui peuvent l'atteindre, d'où qu'elles viennent, et doit par conséquent se considérer comme indigne de l'union de son intention avec une pareille idée, bien que cette idée-là lui serve de modèle. L'idéal de l'humanité, agréable à Dieu, par suite l'idéal d'une perfection morale, telle qu'elle est possible à un être du monde dépendant de besoins et d'inclinations, nous ne saurions le concevoir que par l'idée d'un homme prêt, non seulement à remplir tous les devoirs humains, et en même temps à répandre le plus possible autour de lui le bien par sa doctrine et son exemple, mais encore disposé, malgré les tentations et leurs grands appâts, à subir toutes les souffrances, jusqu'à la mort la plus ignominieuse, pour le bien du monde, pour le bien même de ses ennemis. Car l'homme ne peut pas se faire une idée du degré et de l'intensité de la force qu'est l'intention morale, à moins qu'il ne se la figure aux prises avec des obstacles et triomphantes, malgré tout, au milieu des plus grands assauts. Dans la foi pratique en ce Fils de Dieu, que l'on se représente comme ayant adopté la nature humaine, l'homme peut espérer de se rendre agréable à Dieu, et par là, de jouir aussi de la béatitude. C'est-à-dire que l'homme qui a conscience d'avoir une intention morale telle qu'il lui soit possible de croire et d'avoir en lui-même une confiance assurée, qu'il resterait, parmi de semblables souffrances et de semblables tentations, qui sont devenues la pierre de touche de cette idée, invariablement attaché à ce modèle de l'humanité et qu'il demeurerait fidèle à suivre son exemple et à lui ressembler. Celui-là, et celui-là seul, a le droit de se regarder comme un homme qui n'est pas un objet indigne de la complaisance divine. Petit b. Réalité objective de cette idée. Au point de vue pratique, cette idée a sa réalité complètement en elle-même. Car elle est posée dans notre raison moralement législatrice. Notre devoir est de nous conformer à elle, et il nous faut, par suite, le pouvoir. Que s'il fallait au préalable prouver la possibilité d'être un homme conforme à ce modèle, démarche absolument nécessaire quand il s'agit de concepts physiques, si l'on ne veut pas courir le risque d'être retenu par des concepts vides. Nous devrions également hésiter à accorder à la loi morale le droit d'être un principe inconditionné, et pourtant suffisant, de détermination pour notre libre arbitre. En effet, comment il se peut que la simple idée d'une conformité à la loi en général puisse être pour le libre arbitre un plus puissant mobile que tous les mobiles imaginables tirés d'avantages à obtenir? C'est ce qui ne peut être ni établi par la raison, ni confirmé par des exemples de l'expérience. Parce que, d'une part, la loi commande inconditionnellement, et que, de l'autre, n'y eut-il jamais eu un homme qui ait fait preuve à l'égard de cette loi d'une obéissance inconditionnée, la nécessité objective de s'y soumettre absolument n'en demeure pas moins intacte et par elle-même évidente. Point n'est besoin par suite d'exemples tirés de l'expérience pour faire de l'idée d'un homme moralement agréable à Dieu un modèle à suivre pour nous. Elle se trouve déjà en cette qualité dans notre raison. Mais celui qui, pour reconnaître en un homme la conformité parfaite avec ce modèle, et par suite un exemple à suivre, réclame autre chose que ce qu'il voit, c'est-à-dire autre chose qu'une vie tout à fait sans tache et aussi pleinement méritoire qu'on puisse exiger. Celui qui réclame en outre, pour preuve, des miracles accomplis par lui ou pour lui, celui-là confesse par là son incrédulité morale, c'est-à-dire son manque de foi à la vertu, incrédulité à laquelle ne saurait suppléer nulle foi qui aurait des miracles pour preuve, et qui ne serait qu'historique. Parce que la seule foi qui est une valeur morale est la foi que l'on a à la validité pratique de cette idée qui se trouve dans notre raison, qui seule, en tout cas, peut nous garantir que les miracles peuvent être l'œuvre du bon principe, sans qu'elle puisse emprunter d'eux sa garantie. Aussi faut-il qu'une expérience soit possible dans laquelle se manifeste l'exemple d'un tel homme. Autant qu'on peut attendre et réclamer d'une expérience externe en général des preuves de l'intention morale interne. Car selon la loi, tout homme devrait, en droit, présenter en lui-même un exemple de cette idée. Mais l'original en demeure toujours dans la seule raison. Car l'expérience extérieure ne contient pas d'exemple qui lui soit adéquat, puisque cette expérience ne saurait révéler le fond de l'intention, mais permet seulement d'arriver à le découvrir par des raisonnements qui n'ont pas, il est vrai, une rigoureuse certitude, et qui plus est, même l'expérience interne de l'homme sur lui-même ne lui permet pas de pénétrer la profondeur de son cœur au point de pouvoir acquérir, par sa propre observation, une connaissance entièrement sûre du principe des maximes qu'il professe, ni de leur pureté et de leur fermeté. Si donc, à une certaine époque, un homme d'une inspiration morale véritablement divine était comme descendu du ciel sur la terre, offrant par sa doctrine, sa vie, ses souffrances, l'exemple d'un homme agréable à Dieu. Autant qu'on peut le désirer d'une expérience externe, attendu que l'original d'un être de ce genre ne doit jamais être cherché ailleurs que dans notre raison. S'il avait par tous ses moyens apporté dans le monde un bien moral d'une grandeur incomparable, opérant dans le genre humain une révolution, nous n'aurions pourtant pas de motif d'admettre qu'il fût autre chose qu'un homme engendré naturellement, puisque ce dernier, lui aussi, se sent tenu d'offrir en lui-même un pareil exemple. Ce qui, pourtant, ne serait pas nier absolument que cet homme de bien fût aussi engendré de manière surnaturelle. En effet, Sous le rapport pratique, l'hypothèse dernière n'est pour nous d'aucun avantage, parce que, malgré tout, c'est toujours en nous-mêmes, hommes naturels cependant, qu'il faut chercher l'original que nous donnons à ce phénomène pour base. Et l'existence de cet original dans l'âme humaine est, en elle-même, assez incompréhensible, pour qu'on n'ait pas besoin d'admettre, outre son origine surnaturelle, son incarnation dans un homme particulier. Ce serait plutôt aller contre l'application pratique de l'idée du juste, par excellence, qui doit nous servir de modèle, que d'élever ce juste au-dessus de toute la fragilité de l'humaine nature. Tout, du moins, nous porte à juger ainsi. En effet, bien que cet homme agréable à Dieu, en tant que sa nature est conçue comme humaine, fut soumis aux mêmes besoins, et par suite aussi aux mêmes souffrances, aux mêmes inclinations naturelles, et par suite aussi aux mêmes tentations à transgresser la loi que nous. Comme dans la mesure où on la concevrait comme surnaturelle, il faudrait attribuer à cette nature une pureté du vouloir inaltérable, non pas acquise, mais innée, qui rendrait toute transgression absolument impossible pour lui. Il y aurait alors de nouveau, et par cela seul, entre cet homme divin et les hommes naturels que nous sommes, une distance si infiniment grande qu'il ne pourrait plus nous servir d'exemple. Qu'on me donne, dirait chacun, une volonté absolument sainte, et toute tentation de mal faire échouera d'elle-même en moi. Qu'on me donne la certitude intérieure la plus complète, qu'après une courte existence terrestre, je serai appelé, à cause de ma sainteté, à jouir sans délai de toute éternelle magnificence du royaume des cieux, et je supporterai, non seulement avec résignation, mais encore avec joie, quelque dure qu'elle puisse être, toutes les souffrances, et jusqu'à la mort la plus ignominieuse, ayant, devant mes yeux, l'issue magnifique et prochaine. Sans doute, si l'on songe que cet homme divin était réellement de toute éternité en possession de cette majesté et de cette béatitude, sans qu'il eût besoin de les mériter en endurant de pareilles souffrances, qu'il s'est résigné à s'en dépouiller pour le bien de créatures indignes, pour le bien même de ses ennemis, afin de les sauver de la damnation éternelle, il y a là de quoi exciter dans notre âme de justes sentiments d'admiration, d'amour et de reconnaissance à son égard. On pourrait également nous représenter l'idée d'une conduite conforme à une règle de moralité si parfaite comme absolument valable pour nous en qualité de prescription à suivre. Mais cet homme divin ne saurait jamais nous être donné comme un exemple à imiter, ni par conséquent non plus, comme une preuve établissant la puissance que nous avons d'atteindre un bien moral si pur et si sublime. Note. C'est sans doute une marque des limitations imposées à la raison humaine et qui en sont inséparables que nous ne puissions concevoir pour les actes d'une personne une valeur morale d'importance sans nous représenter aussi, d'une manière humaine, cette personne et sa manifestation. Bien qu'à la vérité nous ne voulions pas affirmer par là qu'il en soit ainsi en soi. Car nous avons besoin, pour saisir des manières d'être suprasensibles, de recourir toujours à certaines analogies avec des êtres de la nature. Un poète philosophe attribue de la sorte à l'homme, parce qu'il doit combattre un penchant au mal qui se trouve en lui, et pour cette seule raison, à la condition qu'il sache le vaincre, un rang plus élevé sur l'échelle morale des êtres qu'aux habitants même du ciel, qui en raison de la sainteté de leur nature sont à l'abri de toutes les séductions possibles. Entre parenthèses, le monde avec ses défauts est meilleur qu'un royaume peuplé d'anges sans volonté, à l'heure. L'écriture aussi s'accommode de ce mode de représentation pour nous faire saisir l'amour de Dieu pour le genre humain et le degré jusqu'où cet amour est poussé, quand elle attribue à Dieu le plus grand sacrifice que puisse faire un être aimant pour rendre heureuse même d'indignes créatures. Entre guillemets, Dieu a donc aimé le monde. Bien qu'il nous soit impossible par la raison de concevoir comment un être qui se suffit pleinement à lui-même peut sacrifier quelque chose qui fait partie de son bonheur et se dépouiller de ce qu'il possède. C'est là le schématisme de l'analogie qui sert à l'explication, dont nous ne saurions nous passer. Mais le transformer en un schématisme de la détermination de l'objet, visant à l'extension de notre connaissance, c'est de l'anthropomorphisme qui, sous le rapport moral dans la religion, a les conséquences les plus funestes. Je veux faire ici en passant cette simple remarque qu'en remontant du sensible au suprasensible, si l'on peut bien schématiser, rendre concevable un concept au moyen de l'analogie avec une chose sensible, on ne saurait aucunement conclure, en vertu de l'analogie, de ce qu'une chose appartient à l'un, qu'elle doive être aussi attribuée à l'autre, ni étendre ainsi son concept. Et cela pour une raison très simple, c'est que toute analogie verrait se tourner contre elle une pareille conclusion qui, de la nécessité où nous sommes de nous servir d'un schème pour nous rendre un concept compréhensible, de l'appuyer sur un exemple, voudrait tirer la conséquence de la nécessité pour l'objet même de posséder en propre et comme prédicat ce qui est attribut sensible. De ce que, par exemple, il m'est impossible de concevoir la cause d'une plante ou de toute créature organique et généralement du monde plein de faim, autrement qu'au moyen de l'analogie d'un ouvrier relativement à son œuvre, à une montre, c'est-à-dire autrement qu'en lui attribuant de l'entendement. Je ne peux pas dire qu'il faut que la cause elle-même, de la plante et du monde en général, ait, elle aussi, de l'entendement. Ou en d'autres termes, qu'il faut lui attribuer de l'entendement, non seulement si l'on veut pouvoir la comprendre, mais afin qu'elle puisse être cause elle-même. Or, entre le rapport d'un schème au concept que l'on a et le rapport de ce même schème, du concept à la chose même, il n'y a pas du tout d'analogie, mais un bond formidable, qui nous introduit de plein pied dans l'anthropomorphisme, comme je l'ai prouvé ailleurs. Fin de la note. Retour au texte. Et pourtant ce maître, en qui régnerait une inspiration morale divine, mais qui serait entièrement et véritablement humain, pourrait néanmoins nous entretenir de lui-même en toute vérité et se représenter comme incarnant, dans sa doctrine et sa conduite, l'idéal du bien. Car alors il ne parlerait que de l'intention qu'il a prise lui-même pour règle de ses actes, intention qu'il peut rendre visible aux autres, mais non à lui-même, à titre d'exemple, et que par conséquent, il traduit au dehors par ses leçons et par ses actes. Ouverture de guillemets, qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Fermeture de guillemets. Or, l'équité commande, quand un maître, sans défaillance, donne l'exemple de ce qu'il enseigne, si ce qu'il enseigne est d'ailleurs un devoir pour chacun, de n'attribuer sa conduite qu'à l'intention la plus pure, lorsqu'on n'a pas de preuve du contraire. Or, cette intention, unie à toutes les souffrances acceptées pour le bien du monde, conçue dans l'idéal de l'humanité, est pleinement valable pour tous les hommes de tous les temps et de tous les mondes, devant la justice suprême. À condition que l'homme rende, comme il le doit, son intention semblable à elle. Sans doute, elle demeurera toujours une justice qui n'est pas la nôtre, puisque nous devrions pour y arriver conformer pleinement et sans défaillance notre vie à cette intention. mais il faut pourtant qu'elle puisse être adjugée à l'homme à cause de la sienne propre, à condition que cette justice de l'homme soit unie à l'intention de l'original. Bien que pour arriver à rendre cette adjudication compréhensible, nous rencontrions encore de grandes difficultés que nous allons exposer.